Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h03, vous êtes sur RMC, RMC Story, canal 23, vous êtes dans Estelle Midi. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, Perico Légas. On est avec Thierry Moreau et Emmanuel Dancourt avec vous également au 32-16 pour réagir à ce boom des arrêts maladie en 2022. Les salariés sont de plus en plus nombreux à s'arrêter. Alors, est-ce qu'on est devenus des chochottes? On attend vos réactions au 32-16. Dites-nous, tiens, si vous êtes arrêté cette année et pourquoi. À 13h30, le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la Minute Conso avec Stéphane Pedrazzi. Aujourd'hui, on s'intéressera aux abonnements aux salles de sport. Vous savez, les trucs, on le fait au début de l'année puis on n'y va jamais. Et ben, Stéphane nous donnera quelques astuces. À 14h, plus d'un jeune sur 10 se dit végétarien. L'avenir est-il au sans-viande en France? 14h30, RMC s'engage pour vous. Et Amélie Rosic qui va venir au secours d'habitants inquiets de voir leur rivière s'assécher. Et puis enfin, on terminera avec de très beaux cadeaux à gagner, des produits Apple, Rémi.
Exactement, RMC vous offre des produits de la gamme Apple dans chacune de ces émissions tout au long de la semaine. L'un d'entre vous sera avec nous à l'antenne tout à l'heure vers 14h40 et remportera soit un iPad, soit une Apple Watch. Et attention, c'est pas fini. Si vous êtes joueur, eh bien, vous renoncez à ce premier cadeau. Vous tentez alors d'ouvrir le coffre RMC avec à l'intérieur des AirPods ou le dernier iPhone 14. On en parlait à l'instant. Pour tenter votre chance, vous vous inscrivez tout de suite par SMS en envoyant le mot coffre par SMS, donc au 732-16. Coffre par SMS au 732-16.
RMC Estelle Midi.
Et on va s'intéresser tout de suite dans Estelle Midi au boom du jour, c'est celui des arrêts maladie. En 2022, 42% des salariés français ont posé au moins un jour d'arrêt dans leur entreprise. Alors bien sûr Rémi, il y a le Covid, mais pas que.
Oui, les maladies dites ordinaires, grippe, rhume ou angine, sont la première cause d'arrêt hors Covid, 27% des cas. Le changement vient surtout des arrêts pour troubles psychologiques et pour épuisement professionnel. En forte hausse, avec 20% du total des arrêts en 2022 contre 15% en 2020. Il dépasse pour la première fois ceux accordés pour des problèmes musculo-squelettiques, le mal de dos typiquement. Mm-hmm. Les troubles psychologiques constituent par ailleurs le principal motif des arrêts longs. C'est 28% des arrêts longs en 2022 contre 14% en 2016. Prenant le pas donc sur les accidents, il y a plus d'arrêts longs pour problèmes psychologiques que pour accident. Et le public concerné par ces arrêts diffère lui aussi des autres années. Les 18-34 ans sont surreprésentés dans ces statistiques. 46% des 18-34 ans ont déposé au moins un arrêt maladie cette année. 46% contre 34% pour les plus de 50 ans. Autre chiffre, les femmes ont été plus nombreuses que les hommes à avoir cessé le travail. 48% contre 37% pour les hommes. Leurs conditions d'emploi souvent plus précaires, mais aussi la charge familiale sont les principales explications, selon Malakoff Humanis, qui réalise cette étude. Près d'une femme sur deux a aujourd'hui le sentiment d'être fatiguée.
Alors, on a déjà beaucoup d'appels hein, au 32-16 sur ce débat. Je vais d'abord commencer avec vous, Thierry. Est-ce qu'on est devenus des chochottes?
Non, je crois pas. Je crois qu'il faut mettre un peu de mesure dans le débat. D'abord, on a tous connu D'abord, premier point, ça c'est quelque chose qui concerne les salariés. Les professions libérales, les indépendants, eux, ils peuvent pas s'arrêter. Et j'en ai entendu ce matin dans la matinale d'Apolline qui témoignait. Quand on peut pas s'arrêter, on peut pas s'arrêter quand on...
Ils peuvent s'arrêter, mais ils gagnent plus.
Voilà. C'est ça. Donc, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour le salariat. La deuxième chose, c'est qu'on a tous connu dans les boîtes que j'ai traversées, des gens qui, pour un pet de travers ou une goutte au nez, s'arrêtent. Il y en a, c'est des gens qui sont pas investis dans leur boulot, on les connaît, on les repère, il y en a toujours eu, ils sont minoritaires, ils sont pas très nombreux. En revanche, effectivement, aujourd'hui, maintenant, il y a une augmentation des gens qui prennent des arrêts, alors qu'avant, on en prenait moins. J'ai le sentiment,
bah bon, on hésitait,
tu l'as expliqué, que les deux années qu'on a vécues ont épuisé un certain nombre de gens. Je pense aussi, et c'est là que je voulais mettre l'accent, que aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés où on est dans un productivisme acharné, où on demande aux gens d'en faire toujours plus pour le même salaire, pour des salaires dont on parle ici souvent, qui sont souvent misérables, et donc...
Mais est-ce que c'est une raison pour se mettre en arrêt maladie?
Non, mais donc on a une plus grande facilité...
C'est quand même de la triche de se mettre en arrêt maladie si on n'a rien, enfin pardon.
Ah non, mais alors... Il y a deux choses. Il y a soit les
mais
gens
non, qui si on a quelque chose, c'est logique, mais...
Non, vous confondez deux choses.
Ah,
il y a les gens qui s'arrêtent pour un rhume, les gens qui s'arrêtent pour rien. C'est pas la même chose. Il y a les gens qui s'arrêtent pour un rhume.
Excusez-moi, vous arrêtez pour un rhume, vous
non,
pour un
moi,
rhume,
je me suis jamais arrêté. Dans ma carrière, je me suis arrêté une fois parce que je ne pouvais plus marcher, j'avais le dos bloqué, j'étais aux urgences et j'ai fini aux morphines, sous morphine. Mais dès le lendemain, je suis retourné au bureau contre l'avis du médecin. Peu importe. C'est pas mon cas personnel qui est intéressant. Je dis aujourd'hui, il y a une propension des gens qui sont épuisés, dont le management irresponsable les pousse à bosser encore plus. Et donc, si de temps en temps, ils ont une petite faiblesse, bah, ils disent, je vais rester chez moi plutôt que d'aller travailler.
Mais voilà. Donc, payé par la Sécu. Ben,
ça fait partie de ce qu'on entend.
Je dis pas que c'est bien, je constate.
Bah, oui, d'accord, vous constatez comme ce rapport. Mais enfin, ce qu'on vous demande, c'est votre avis, c'est pas de constater.
Et ben, ce que je dis, c'est que ça s'explique par un certain nombre de choses, notamment quelquefois des managements qui sont trop durs.
Donc c'est la faute du patron.
Pas toujours, mais ça arrive.
Ce que Thierry est en train de dire, il manquait juste de prononcer les mots, ça fait partie de la fameuse démission silencieuse dont on parle beaucoup depuis quelques jours, de se mettre en arrêt, peut-être à un moment où on ne se serait pas mis en arrêt dans la vie d'avant. Mais après, pour quelqu'un comme moi, parce que tu parles des indépendants, moi, je n'ai pas pris un arrêt, sauf les congés maternité évidemment, mais pas un arrêt en 25 ans, parce que je ne peux pas. J'ai pas le droit, j'ai pas le choix. Comme disait Péricot, si je bosse pas, il y a pas d'argent, il y a pas de chômage, il y a rien qui tombe.
Non, mais c'est clair, les indépendants,
donc, les gens
ils sont
comme
à part,
moi, là-dedans. Non mais c'est pas qu'on a une santé meilleure.
Non, non.
Loin de là, mais 42 fièvre.
C'est 15 jours d'arrêt pour les fonctionnaires contre 3 pour les indépendants. Donc.
Non mais. Ouais, enfin, tu y vas, t'as de la fièvre, tu te poses pas la question, t'es malade, tu te poses pas la question, tu y vas. Et ceux qui sont en CDI ou en CDD, et tant mieux pour eux, ont cette possibilité-là. Et moi, je pense qu'on est devenu des chochoteurs. Toi, contrairement à toi, je pense que les chiffres que nous a donné Rémi disent quelque chose de notre société actuellement, qui est devenue peut-être plus fragile, qui est devenue peut-être plus consciente aussi de son corps et de ses besoins et tout
et
ce qu'on a
droits.
Pu entendre, peut-être aussi. De ses droits aussi. Mais en même temps, de mon point de vue d'indépendante, je sais qu'on est capable de tenir. Hein. J'ai pas une santé meilleure que n'importe qui d'autre, peut-être même moins.
Après, nous, on a aussi, alors, il faut le dire, on a aussi des boulots intéressants qui font qu'on a envie d'aller au boulot le matin. Et que c'est plus simple quand on a envie d'aller au boulot le matin, de se dire, bah, tiens, j'ai un rhume, j'ai 38. Bon, je peux aller bosser parce que le boulot fait que et puis ça ira mieux. Mais c'est vrai, quand vous avez un boulot que vous n'aimez pas, avec un patron que vous n'aimez pas, bah, quand vous avez 38, effectivement, c'est moins sympa d'aller.
Et donc, pourquoi vous n'aimez pas votre patron? Parce que c'est pas un bon patron. Voilà.
Oui, c'est possible aussi.
Mais tu sais que c'est beaucoup les managers en ce moment qui prennent les arrêts parce qu'ils arrivent plus eux-mêmes à leur niveau de responsabilité.
Vous êtes en train de
manager,
me faire bouillir Perico Légas, c'est là je sens qu'il ne peut plus
non,
attendre.
Non, mais je suis étonné, j'ai toujours l'impression d'être dans un monde décalé, j'hallucine de ce que j'entends. Tout ce qu'on a dit est vrai, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le médecin qui fait l'arrêt maladie.
Ça, je suis d'accord.
Tu sais qu'il se refile les médecins.
Vous n'avez pas évoqué une seule seconde.
Mais parce qu'on en a
qu'un salarié, moi le premier, est, à un moment donné, pour un coup de blues, ou un bobo qu'on vit mal, ait envie de tirer au flanc, on a toujours le droit de tenter sa chance. Je suis fatigué, j'ai machin, j'ai tombé la cheville, j'ai plus envie. Estelle m'a mal parlé. Rémi me fait la gueule. Je tente ma chance. Mais moi, je me prends un coup de pied au cul à la maison quand je dis qu'Estelle m'a mal parlé. Hop, au boss. Tu sais, ben. Bon. Mais il y a le médecin qui m'a petite chérie. Oh, oui, vous pouvez mettre 8 jours. Oh, 8 jours, ça va pas être assez.
Il y a plein de médecins qui refusent.
Je parle pas des
secondes, on en a un
je parle pas des médecins professionnels qui font leur boulot correctement, qui accordent des arrêts maladie justifiés, et ceux qui se font cogner parce qu'ils disent non. Voilà. Mais hélas, il y a beaucoup trop de médecins, c'est un peu comme les magistrats un peu laxistes, il y a beaucoup trop de médecins aujourd'hui qui, pour des raisons sociopolitiques ou socioculturelles ou politico-culturelles, disent oui, bien sûr, et puis 8 jours, mais non, ma chérie, je vais te mettre 15 jours.
Ouais,
je vais te mettre
3.
Attendez, je connais des patients qui m'ont dit, il m'en a rajouté 15, moi je voulais repartir au travail, il m'a dit non, votre poignet, c'est encore un petit peu.
T'es pas obligé de le prendre, hein?
Ah ben, elle a 15 jours, il a 15 jours en plus, elle a 15 jours. Non, mais le problème, il est là. Qui contrôlera aujourd'hui ce droit régalien, ce pouvoir de magistrature sanitaire qu'ont les médecins, d'accorder à la tête du client et en fonction de leur à la tête du client.
C'est
je parle des médecins. Je parle de la minorité de médecins qui est comme ça. Par bonheur, la majorité des médecins français sont... Voilà. Mais il y en a quand même beaucoup trop, et on sait aujourd'hui qu'il y a des arrêts de travail qui sont abusifs, qui coûtent cher à la société, qui affaiblissent l'entreprise, qui mettent un mauvais climat, et qui sont là parce qu'on sait qu'il y a des médecins qui vont le faire tout de suite. Voilà. Alors, et ça, c'est un scandale républicain.
D'accord. Alors justement, nous sommes avec un médecin, et on l'adore, bien sûr, dans Estelle Midi, c'est le fameux Dr Pepper, sur Twitter, médecin généraliste en Bretagne. Bonjour docteur.
Bonjour Estelle, mais faut pas m'appeler comme ça, il y a mon hypertension qui vient d'augmenter à l'instant. J'ai l'impression qu'il y a des quatre qui se perdent sur RMC.
Oui,
on vous donne 4 jours, docteur.
Alors, c'est justement... la sécurité sociale, ça. C'est pas moi qui décide.
Docteur, est-ce que vous avez prescrit plus d'arrêts maladie en 2022 qu'avant? Est-ce que vous avez senti, vous aussi, ce boom?
Non, moi, pas spécialement, parce que moi, je travaille dans un centre de soins non programmés, donc moi, les gens viennent me voir souvent pour des arrêts. Mais oui, effectivement, de manière générale, il y a eu plus d'arrêts de travail, je pense, mais c'est aussi lié à plein de facteurs, notamment le Covid. Je donne juste un exemple, mais avant, quand les gens avaient un rhume, ils allaient juste voir leur médecin. Maintenant, quand ils ont un rhume, on leur fait au moins un jour d'arrêt de travail pour qu'ils aillent faire au moins une PCR. On leur dit, isolez-vous tant qu'on ne sait pas si vous avez le Covid ou pas. Tout ça, forcément, a multiplié les choses. Bon, j'ai lu l'étude, j'ai rapidement vu l'étude Malakoff, parce que c'était un sujet. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que dans cette étude, on n'ait pas vu le nombre de jours d'arrêt de travail. Est-ce que ce sont des petits arrêts ou des longs arrêts de travail qui ont augmenté? Parce que ça a quand même une incidence très importante. Voilà.
Mais est-ce que vous, alors moi la question que je me pose, elle est peut-être bête, mais est-ce que vous arrivez en tant que médecin à faire la différence entre un patient qui veut gruger un arrêt maladie et un qui est vraiment malade? Je m'explique, évidemment, s'il y en a un qui a l'appendicite, bon ok, mais si le médecin, si le patient vous dit oh, je suis très fatigué, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, je sais pas ce que j'ai, je suis épuisé, qu'est-ce que vous faites?
Je vous rassure Estelle, tous les patients n'ont pas fait Acteur Studio, donc les acteurs on les repère quand même assez facilement.
D'accord. Elle serait super bonne.
Très bonne.
Mais par contre, il y a souvent ce qu'on appelle le motif caché. Moi, un patient qui me dit « je me sens pas d'aller au travail, docteur, j'ai mal au ventre, etc. », ça se justifie pas. Il y a souvent un motif caché derrière. Et quand on gratte, qu'est-ce qu'on découvre? Il y a du burn-out, il y a des violences peut-être, il y a quelque chose qui va pas. Il y a un syndrome de stress professionnel. Donc là, souvent, on dit « bah écoutez, on va faire le point, prenez quelques jours pour le sommeil, et on creuse, on trouve toujours. » Faut pas croire que les médecins donnent des arrêts de travail parce que ça leur fait plaisir. Le clientélisme, c'était dans les années 80. Moi, aujourd'hui, si le patient n'est pas content, c'est pas de problème. J'ai 40 patients derrière qui attendent. Donc, quand on donne, il y a vraiment un motif. Vraiment. Faut pas croire qu'on donne n'importe quoi. Et on est fliqué, On est très fliqué par la sécurité sociale pour ça.
Mais est-ce qu'il y a quand même des médecins qui sont plus complaisants que d'autres?
On sait.
Vous savez, le nom qu'on se file sous le manteau, quoi. Va voir machin, il va te filer 15 jours.
Oui, bon, ça c'est connu. Alors déjà, un arrêt de travail, vous l'avez souligné tout à l'heure, n'est pas une obligation d'arrêt de travail, c'est une autorisation à arrêter de travailler. Donc, si le salarié et l'employeur sont d'accord pour la reprise de travail, il n'y a pas de problème. Oui, on sait qu'il y a des médecins qui, peut-être, donnent un petit peu plus. D'ailleurs, d'après les statistiques, c'est un faible pourcentage de médecins qui donnent un pourcentage assez important d'arrêt de travail. Mais sachez que ces gens-là sont fliqués par la Sécu, et la Sécurité sociale a des grilles. Une gastro, c'est 3 jours. Nous, quand on prescrit des arrêts de travail, on a des tableaux. Une gastro-entérite, c'est 3 jours. Une cheville, si c'est une entorse bénigne, c'est 7 jours. Si c'est une entorse grave, c'est 14. Il y a des grilles. Donc, on ne peut pas vraiment déroger.
Des barèmes?
Oui, des barèmes, tout simplement. Et on est vivement attaqué, d'ailleurs, si on fait trop d'arrêts de travail. Alors, bon, ça, c'est un autre sujet, mais on est des délinquants statistiques pour la sécurité sociale. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'arrêt injustifié. Quand il faut donner, c'est qu'on pense qu'il y a besoin.
Et est-ce que vous avez des patients qui ont très mal pris le fait que vous ne leur donniez pas d'arrêt?
Bien sûr, ça arrive toujours. D'ailleurs, c'est un motif de violence dans les cabinets médicaux. Parce que, voilà. Mais on cherche toujours le motif caché derrière, parce que il y a toujours une explication.
Oui, c'est pas juste pour partir en week-end à l'île de Ré, quoi.
Non. Parce que là, je peux vous assurer que moi, ils volent à travers la fenêtre, ces gens. On les voit, Acteur Studio, ils sont pas tous brillants. Donc, non. Et c'est pour ça que je suis pas d'accord quand on dit que les médecins mettent trop d'arrêts de travail, de complaisance. C'est faux.
Eh ben merci en tout cas Dr Pepper d'avoir été avec nous. J'adore ce nom sur Twitter, et non, c'est pas son vrai nom, qui est médecin généraliste en Bretagne. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans Estelle Midi, et c'était extrêmement clair. On va prendre Étienne qui nous appelle, de Bretagne encore, mais décidément incroyable, qui nous appelle de Rennes. Étrange. Bonjour Étienne.
Bonjour les malades. Salut Estelle, salut tout le monde, ça va bien?
Salut.
Bonjour
Étienne. Vous, Étienne?
Ah toujours, il fait toujours beau chez nous, donc la bien Bretagne sûr. Est géniale, quoi.
Bah oui, vous n'êtes pas en arrêt maladie, Étienne?
Ah non, maintenant je suis auto-entrepreneur, c'est fini tout ça, on s'arrête plus, on peut plus,
Vous aussi, vous payez une prévoyance qui commence seulement à 15 jours d'arrêt ?
Non, non, moi je paye rien et puis quand je suis malade, bah en fait je suis jamais malade, j'ai pas les jours.
Voilà, bienvenue au club.
Voilà, il faut aller travailler.
Alors, qu'est-ce que vous pensez, Étienne, de ces 1 Français sur 2 qui ont posé un arrêt maladie en 2022, puisque vous, ça ne vous arrive jamais, vous dites que c'est des tirs au flanc ?
Alors, moi non, alors en fait, je vais vous raconter un petit truc. À l'époque, il y a 4-5 ans, je travaillais dans un magasin de téléphonie mobile. Mm-hmm. Et je vais vous raconter, vous allez trouver ça dingue. Nous, on avait en fait, avec ce magasin, on pouvait s'arrêter au bout d'un jour. On était quand même payé. En fait, on n'est pas 3 jours de carence, d'accord ? Déjà, d'accord. Ça, c'est un truc de dingue. Et ensuite, quand on s'arrêtait, on était plus payé que si on allait travailler.
Ah bon ?
Alors, attendez, je vais vous expliquer. À un moment, je me suis mis en arrêt 3 semaines pour mes varices, parce qu'il n'y avait pas le choix.
Ouais.
À la base, mes collègues étaient payés, on va dire, ils avaient un fixe de 1 200 €. Mmh. Et ensuite, ils avaient des primes par rapport à ce qu'ils vendaient.
Comment ça ?
Sauf que c'était un mois qui était un peu compliqué. Ils avaient fait 200 € de primes. Mmh. Et moi, sur mon salaire en arrêt, j'ai eu 1 700 €. J'ai eu plus que.
Ah, parce que c'était la moyenne des 6 derniers mois, en fait.
Exactement.
Ouais, voilà.
Donc, imaginez, on vous dit, en arrêt, vous êtes plus payé que si vous travaillez.
Ah bah.
À un moment, on fait quoi ?
Moi, bah, on se met en arrêt. Bah, on
voilà,
se met en arrêt.
On fait quoi ? Et c'est pas question de... Voilà,
Et si en plus vous travaillez au black en même temps, bah, alors là, c'est le jackpot.
Mais c'est un truc de dingue. Et en fait, à un moment, bah, il suffisait de s'arrêter. On savait très bien qu'on allait être mieux payé et c'était un truc de fou. C'est pour ça qu'aussi les femmes enceintes, elles s'arrêtaient directement et elles avaient grave raison. Et moi, je les comprenais. Hein, à un moment,
c'est un droit aussi. Hein. Il y a les congés pathologiques, notamment
sûr,
pour les femmes enceintes.
Carrément. Mmh. Mais en fait, on était payé plus que si on s'arrêtait. Voilà.
Et ça, c'est un problème, évidemment. Ben, merci beaucoup, Étienne, de nous avoir raconté
cette
petite anecdote, parce que c'est effectivement intéressant. Manu nous appelle de Bricontrobert, en Seine-et-Marne, et il est chef d'entreprise. Bonjour, Manu.
Oui, bonjour.
Et merci d'être bonjour. Avec nous, Manu. Alors, vous êtes chef d'entreprise. Est-ce que vous êtes confronté quotidiennement aux arrêts maladie, justement, de vos salariés ?
Alors, quotidiennement, non. On va dire hebdomadairement, oui.
Ah oui. Et c'est un problème pour vous ?
J'en ai au moins 1 ou 2 par semaine, oui.
Et ouais. Pour vous, c'est des vrais arrêts maladie ?
Non.
Ah.
Non, et ça date depuis, ça fait 7 ans que je suis à mon compte. Mmh. Ça fait, on va dire, 6 ans que c'est du récurrent, quoi. C'est le moindre bobo, c'est le dimanche soir, on a fait un peu la bringue, on a été jouer au foot, et puis le lundi, ça va pas, je vais me remettre un peu. Et puis, il y a beaucoup, enfin, moi, je connais essentiellement des arrêts de complaisance.
Ah oui, mais et dans ces cas-là, est-ce que c'est toujours le même médecin ? Est-ce que vous avez des moyens de lutter contre ça, vous ?
Non, j'ai plusieurs sites en France et c'est partout pareil. Après, ils arrivent à tomber sur les bons médecins, certainement. Mmh. Je sais que lorsqu'il y a de l'abus, par exemple, un exemple tout bête, anecdotique, j'ai changé les pause clopes sur un des employés. J'ai eu 2 mois d'arrêt derrière.
Ah, pour une pause clope ? Ah oui, c'est quand même... Ah oui, oui. Heureusement que vous n'avez pas changé la pause pipi, c'était 1 an.
On va dire les horaires des uns et des autres. J'ai eu 2 mois d'arrêt. Alors bien sûr, quand vous recevez l'arrêt, vous ne savez pas pourquoi la personne est arrêtée. Hein.
Eh, on n'a pas le droit.
Oui, c'est vrai. Et vous n'avez pas le droit de demander.
Quand la personne devait reprendre, c'était un abandon de poste. C'est-à-dire la personne, je ne l'ai pas vue pendant 6 mois.
Ah oui.
Et lorsque vous demandez des contrôles ou autre chose, on vous dit on n'a pas le temps.
C'est ça, parce que vous pouvez appeler la Sécu et demander un contrôle sur vos employés.
J'ai arrêté.
Très peu de contrôles, hélas.
Et c'est quoi la solution pour vous, Manu ?
C'est trouver des gens motivés. Alors, j'ai même mis en place une prime d'assiduité. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes présent au travail, vous prenez 100 balles net. Ça m'énerve de devoir payer des gens pour venir bosser et toucher déjà le salaire. Mais on en est arrivé là à donner 100 € net par mois pour que les gens soient présents au travail. Ouais. Et même comme ça, ils font leurs calculs. Étienne le disait, hein, ils font leurs calculs. Je manque, je touche plus. Il y a des choses qui collent pas, quoi. Ça colle pas.
Et c'est vrai que c'est peut-être s'il y avait plus de jours de carence, ça éviterait. Quand vous avez 3 jours de carence, bah effectivement, pour un rhume, le médecin vous donne pas 4 jours. Donc en fait, bah vous évitez de faire des arrêts maladie plus longs. Mais merci Manu, en tout cas, d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. Vous avez plein de messages, Rémi.
Et on se souviendra peut-être de l'ancien maire de Poissy, Carl Olive.
Oui.
Lui payait les fonctionnaires de la mairie.
Ouais.
Ils étaient rémunérés pour faire du sport. Donc ils avaient des heures de sport et il avait noté effectivement qu'il y avait une baisse des arrêts maladie. Donc il y a d'autres possibilités aussi. Et parfois il y a des arrêts maladie qu'on prend parce qu'on peut pas faire autrement. En tout cas, c'est ce que nous raconte Pauline dans ce message. Je suis conductrice de bus et de tramway et j'ai des horaires de nuit.
Ouais.
Je suis enceinte depuis mi-janvier. En avril, je suis allé voir la médecine du travail afin de ne plus avoir à travailler la nuit à cause de la fatigue, à cause de ma grossesse. Mon employeur, lui, de son côté, s'y est refusé. Du coup, depuis avril, je suis en arrêt maladie pour préserver ma grossesse et ma santé.
Ouais, ça, c'est normal. Et puis, ça, soit elle va accoucher dans les jours qui viennent, parce que ça fait 9 mois, hein, de janvier à septembre. Mais c'est incroyable.
On voit que parfois,
mais à chaque fois, ce dont tu parles, c'est le bien-être au travail. Car Loli, quand tu fais ça, absolument. Parce que les gens sont bien au travail. Et là, le bien-être au travail aurait voulu que cette dame soit,
évidemment,
soit transférée 2 jours.
Et c'est double peine pour le patron, parce qu'il gère mal ses employés, donc ça crée des tensions vis-à-vis de ses employés. Et en plus, son arrêt est fini quand même en arrêt maladie.
On est avec Vanessa, qui nous appelle de Villiers-sur-Marne. Bonjour Vanessa.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors vous avez été RH, donc dans les ressources humaines. Vanessa, vous avez dû en voir des arrêts maladie de complaisance.
Ah oui, en fait j'étais responsable des RH. Et donc j'avais 106 agents à gérer qui travaillent sur différentes structures et nous on centralisait le tout. Effectivement, tous les mois je recevais toujours les arrêts maladie des mêmes personnes. En fait, il y a des gens que j'ai pas vus en 2 ans de poste, il y a des gens que je n'ai jamais vus.
Mais après, c'est des gens qui sont vraiment malades.
Alors, il y a des gens qui sont vraiment malades, mais moi, je vais vous donner 2 cas très spécifiques. J'avais une collègue, donc, que je n'ai jamais vue, qui, à chaque fois, repoussait, qui enchaînait, donc, son 90 jours d'arrêt maladie, et ensuite, avec une complémentaire santé, elle se faisait prolonger encore 2-3 mois, puis, après, elle rajoutait ses congés. Et le pire dans tout ça, c'est que cette dame-là s'est fait prendre en photo en voyage organisé par le CE de l'entreprise.
C'était sur un bateau de croisière.
Bon, voilà, pendant son arrêt maladie, en fait, elle est partie en voyage. Elle était tout sourire sur la photo. Et donc, elle s'est fait prendre dans le journal de la ville. Donc, on a su qu'effectivement, en fait, elle était en vacances pendant son arrêt maladie.
Ça, c'est embêtant.
Voilà, j'en ai une autre pareille qui, entre guillemets, cumulait. En fait, elle allait travailler pour une autre entreprise pendant son arrêt maladie.
Voilà. C'est embêtant.
Vous avez sanctionné ces gens? Vous avez sanctionné?
C'était ça qui était le pire. C'était que, en fait, donc, le directeur de l'autre entreprise m'a appelé en me disant, voilà, écoutez, est-ce que vous connaissez cette personne? Bah oui, cette personne est employée chez nous. Ah, bah, chez nous aussi. Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez me donner les dates de travail, etc.? Et on s'est aperçu elle cumulait. C'est-à-dire qu'elle était en arrêt maladie chez nous. Mais en fait, elle allait travailler pendant cela pour l'autre entreprise. Et elle faisait pareil, elle switchait comme ça. Et le pire, c'est que quand je l'ai su, j'ai prévenu ma directrice qui l'a convoquée. Ils ont juste supprimé son contrat et ils lui ont dit allez, salut quoi. Mais ils lui ont rien fait, en fait, concrètement.
Ouais. Alors après, on a quand même rappelé, alors ça évidemment c'est 2 exemples édifiants, Vanessa, et puis merci de nous avoir appelé, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont vraiment malades.
Mais
il faut aussi le rappeler, il n'y a pas que des arrêts maladie.
La majorité des arrêts de travail sont malades, heureusement.
On parle pas de cela.
Dieu merci.
Et puis après, sur les 42% de salariés qui se sont arrêtés, il y en a plein qui ont été arrêtés à cause du Covid, mais qui ne voulaient pas s'arrêter, qui n'avaient aucun symptôme, qui ont découvert par hasard qu'ils avaient le Covid et qui auraient pu continuer à travailler et qu'on a arrêté. Donc là, ce sont leurs entreprises qui les ont arrêtés.
Ce qui est sûr. D'entreprise vous le disent, notamment dans l'hôtellerie où c'est un travail un peu fastidieux, un peu physique. Des médecins vous le disent, et des responsables sociopolitiques vous le disent. Le bobo qui a 20 ans, on n'en aurait même pas parlé, ça faisait partie d'une torsion. Ouais. Hein. Le bobo aujourd'hui, il est systématiquement mis sur la table et il engendre des arrêts maladie, courts ou longs, qui n'auraient jamais été accordés il y a quelques années. Ça c'est clair. Le bobo aujourd'hui est une réalité. Et il y a des médecins qui se disent non, torsion du pouce, ou 3 jours, 8 jours.
La torsion du pouce, si vous faites un métier manuel, c'est embêtant.
C'est ça.
C'était Eric Zemmour qui avait 8 jours
donc,
pour.
C'est quoi? Je n'en parlerai pas. Ouais. Je vous parle des fonctions où la torsion du pouce n'a pas d'incidence et on met quand même un arrêt maladie. Voilà. Donc il y a vraiment des chochottes et des médecins qui ne sont pas sérieux.
Mais c'est minoritaire.
Alors on ne va pas tourner autour du pot.
C'est minoritaire.
Non, ce n'est pas minoritaire.
Si, c'est minoritaire.
Non.
Caricature.
Écoute, on le saura. Les statistiques sont précises. Ce n'est pas minoritaire.
Tu caricatures comme d'habitude.
Oui, comme ça.
Et toi, tu minimises pour être en conformité avec les autorités.
Voilà, et comme d'habitude. Bon, faut-il renforcer les contrôles sur les arrêts maladie? C'est la question que vous a posée Rémi.
Sans aucun doute, c'est oui pour une majorité de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux. Oui à 67%.
Dans un instant, le zapping, le meilleur des RMC. Tiens, on se demandera si le Conseil national de la refondation est déjà un flop. Je crois que poser la question est déjà une réponse. Faut-il fermer nos stations de ski cet hiver? Et puis, nos policiers ont-ils la gâchette? Trop facile, on parlera de ces refus d'obtempérer. 2 personnes sont mortes sous les balles des policiers cette nuit. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi. RMC, midi 15h, Estelle Midi. Estelle Denis.
13h31, vous êtes sur RMC, RMC Story, canal 23. On est ensemble jusqu'à 15h dans Estelle Midi avec Rémi Barré, Perico Légas, Thierry Moreau et Emmanuel Dancourt. Et on va tout de suite passer au meilleur d'RMC, le zapping. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et je sens que le premier extrait il va vous plaire. Extrait d'Apolline Matin ce matin. Le Conseil National de la Refondation, le fameux CNR, est-il déjà un flop? C'est aujourd'hui qu'a lieu la première réunion de cette nouvelle instance voulue par Emmanuel Macron. L'idée, je vous le rappelle, est de rassembler les différentes forces politiques, syndicales et associatives du pays afin de discuter des grandes réformes à mettre en place en France. Un conseil déjà boudé par de très nombreux invités. Ce que déplorait ce matin Franck Riester, il est le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Beaucoup disaient, mais il faut davantage d'horizontalité, davantage de dialogue, moins de verticalité. Au moment où le président de la République propose une solution, parmi tant d'autres, il y en aura d'autres, eh ben, essayons de s'y adjoindre, participons, et que les forces politiques disent ce qu'elles ont envie de dire dans ces genres d'assemblées. À un moment donné, ce qui compte, c'est régler les problèmes des Français, quelles que soient les idées, d'où qu'elles viennent. Essayons de mettre l'intérêt général avant l'intérêt partisan, l'intérêt corporatiste ou l'intérêt sectaire.
Voilà, le Conseil national de la Refondation. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vus. C'est comme si vous faites votre anniversaire et personne ne vient. C'est un peu humiliant, quoi.
On a un peu évoqué, moi, ce qui me horrifie, ce qui me scandalise, ce qui m'indigne, c'est qu'il ait pris les sigles du CNR, Conseil national de la Résistance, qui fut l'organisme pendant l'occupation, qui a défini l'ADN de. Mais il l'a fait exprès, c'est de la com. Il l'a pris CNR, c'était l'organisme, avec Jean Moulin, Charles de Gaulle, qui a donné l'ADN de la République. Toutes nos valeurs sociales républicaines, tout ce que la France est devenue, est-ce qu'elle est, faut peut-être le réformer d'ailleurs, part de ce rassemblement de résistants qui ont dit voilà, on va sortir, il y aura la libération, voilà ce que la République française doit être au niveau de l'humanisme, de la société, de la justice, voilà tout. Et il prend le mot CNR pour faire sa petite réforme.
Mais attends, mais bon, dans le fond, là, c'est la forme.
Mais non, mais ça ne pouvait qu'exploser. Quand on joue.
C'est pas à cause de ça que ça a explosé.
Je finis ma phrase. Quand on joue avec l'histoire et qu'on prend des sigles historiques où on met derrière quelque chose, il avait dit personne voulait y aller.
Bah on va savoir si aujourd'hui.
Mais il propose rien. Le CNR propose.
Il propose rien parce que justement.
Mais sur le fond,
il s'attend des propositions.
Non, il faut que lui arrive pendant sa campagne électorale de 2022 en disant je me représente. Voilà la nouvelle France que je vous propose. On reprend tout à zéro.
Non, il demande aux gens de quelle France.
Non, mais voilà qui propose. Ensuite, venez, on va discuter. Est-ce que vous prenez ce qu'on prend pas? Bon. Là, il dit, on va venir. Vous savez, le grand débat. Cet homme ne fait que de la communication. Et maintenant, il communique pour communiquer. Il communique même pas pour politiser, pour gouverner. Il communique pour communiquer. D'accord. Ça ne pouvait que faire un flop magistral. Sauf qu'il est en train de porter l'image à l'initiative d'un rassemblement de toutes les forces sociales et politiques autour de la table pour sauver ce pays. Eh ben, ça sera pas. Parce qu'il a torpillé en voulant faire en voulant jouer en plus malin avec le boss CNR. Et la facture sera terrible.
Et là, vous voyez qu'il veut faire quand même des consultations en ligne pour que nous, Français, on puisse donner notre avis.
Dans la suite de Perico, j'ai perdu le début de ma phrase, je vais prendre le milieu. Moi, j'avais animé des débats au moment du grand débat. Vous vous souvenez, il y a eu tout un tas de débats gilets jaunes en France. J'ai fait un tour de France dans un sens puis dans l'autre. J'ai animé des tonnes de débats. Il y a eu des notes qui ont été prises. Ça a été envoyé. Pchit, effet pchit derrière, il ne s'est plus rien passé. On a eu évidemment la CCC, la Convention citoyenne sur le climat. Pchit, ça a servi à rien. Donc moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est beaucoup de communication. Souvenons-nous, j'ai retrouvé le début de ma phrase, quand est-ce que ça a été lancé ce CNR? D'ailleurs, tout le monde se trompe sur le R. On n'entend jamais refondation, on entend révolution, on entend je ne sais pas quoi, mais jamais refondation. Ça a été lancé au moment des législatives, au moment où il n'emmenait pas large, on va dire, Emmanuel Macron.
Il a fait renaissance.
Ouais. Voilà, exactement. Et voilà, et aujourd'hui, il met en place ce qu'il a annoncé, mais pour moi, c'est le flop assuré. Assuré. On a déjà ce qu'il faut dans nos instances pour discuter vraiment. C'est pas faire du blabla.
Mais après, justement, en fait, ce qu'il veut, c'est être plus proche des Français. Enfin, j'imagine, en disant aux Français, dites-moi ce que vous voulez, puis je verrai ce que je peux faire.
On sait bien qu'il
l'applique pas. Il se met un peu en mode Père Noël, mais là, ça ne marche pas. Mais
non. En fait, il a une problématique. Pendant son premier quinquennat, il a bypassé tous les corps intermédiaires, les syndicats, les associations, etc. Donc, il a fait le constat qu'il n'avait pas assez travaillé avec ces gens-là. Après, ça va être un flop aussi parce que les gens n'y vont pas. Moi, je suis contre la politique de la chaise vide. Je pense que quand on dit il faut que le président soit à l'écoute, il faut que le président entende ce que disent les Français, et puis qu'on dit on n'y va pas parce qu'on pense que ça ne va pas fonctionner, je trouve que c'est un peu ambigu comme
raison. J'espère quand tu dis ça.
Après, je termine sur deux points.
Oui.
La référence au Conseil national de la résistance, franchement, on s'en fout. C'est un clin d'œil, ok. Tu peux considérer que c'est une abjection d'avoir pris ça, cette référence-là.
Une aberration.
C'est juste un clin d'œil. Oui, l'aberration. C'est juste un clin d'œil. La dernière chose, c'est qu'il rajoute, et je rebondis sur ce que dit Emmanuel, un nouveau truc. Il y a eu le grand débat. Il y a eu les cahiers de doléances des gilets jaunes qui sont restés dans les préfectures, qui n'ont servi à rien.
C'est le rituel.
La convention citoyenne sur le climat, dont on n'a pas utilisé le truc. S'il sort quelque chose et qu'il ne l'applique pas, ça va être la quatrième fois où il promet quelque chose qui ne tient pas.
On l'a vérifié. Il ne s'en sert pas. Et là où tu plaisantes, mon cher Thierry, c'est que la vraie consultation, le vrai sondage, la vraie écoute du peuple, on l'a eu au deuxième tour des législatives. Il a une assemblée nationale, il a un parlement. Ça s'appelle la représentation nationale.
D'accord.
S'il veut consulter les Français sur leurs aspirations, il va voir les représentants que le peuple français lui a envoyés.
D'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'un certain nombre de gens qui ne veulent pas y aller disent par ailleurs qu'ils ne consultent pas.
Non. Il a une assemblée nationale qui est la réponse du peuple français à ce qu'il a demandé après sa campagne électorale. Il a posé la question aux Français. Voilà ce que je vous propose. Ça s'appelle Renaissance. Ils ont répondu par une majorité relative. Et comme il ne veut pas cette majorité représentative, il essaie de contourner le Parlement en allant voir des gens qui n'en ont rien. On est tous vaccinés. Le grand débat, c'est du flop. On va faire un deuxième grand débat. Il nous prend pour qui?
Les GG ce matin et cette question, faut-il fermer nos stations de ski à l'approche de l'hiver? De nombreux professionnels de la montagne craignent que le gouvernement réduise leurs activités pour faire des économies d'énergie. Un débat qui agace sérieusement le professeur d'histoire des GG, Kevin Bossuet.
Concernant l'avenir du ski, je vois que le madame Irma de l'écologie nous prédit l'apocalypse totale, comme tous les ayatollahs verts. Attention, attention, le monde va s'écrouler. Nous allons tous mourir, surtout si vous mettez votre chauffage à un degré de plus par rapport à celui recommandé. Non, en effet, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Le ski, évidemment, continuera à être là. Arrêtons, si vous voulez, cette politique de la peur. Les gens nous font peur. Il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine. Maintenant, on nous fait peur parce que on nous prédit l'apocalypse. Mais c'est anxiogène.
Est-ce qu'il va falloir fermer nos stations de ski cet hiver? Thierry Moreau, on demande aux Français de faire des efforts, donc pourquoi pas les stations de ski?
Alors Kevin est toujours dans la mesure, c'est bien connu.
Oui, bien sûr.
Non, ce qu'il va falloir clairement, c'est que ce type de loisir hivernal, il va falloir qu'il change. C'est-à-dire que je pense que quand il y a de la neige et qu'on peut faire fonctionner le ski, il n'y a pas de problème, les gens peuvent aller faire du ski, il n'y a pas de souci. Quand il faut artificialiser les pistes parce que justement, il n'y a pas assez de neige, là, je trouve qu'on touche à un problème où on force la nature.
Évidemment.
Et ça coûte très cher écologiquement.
Évidemment.
Je ne parle même pas des pistes de ski en plein désert, comme on a pu en voir dans d'autres pays. Mais pour ce qui est de nos stations à nous, moi, j'ai envie de dire, elles sont ouvertes quand il y a de la neige. Quand elles ne sont pas ouvertes, elles ferment.
Et t'as des stations avec des canons à neige. Qu'est-ce qu'on fait pour ces stations-là, par exemple?
Si elles ne fonctionnent que sur canons à neige, c'est une aberration. Je suis désolé.
Et les milliers de Français qui travaillent là-bas.
Ça prend du temps, mais
c'est pas de ta faute, c'est pas de la mienne, c'est pas de la faute des gens qui n'iront pas, c'est la faute d'une gestion de cette planète qui fait qu'il y a des endroits de la nature où il y a plus d'eau, donc il y a plus de ski, il y a plus de natation.
Je pose
la question.
Non, mais tu as raison de poser la question.
Je rebondis sur ce que vous venez de dire.
Donc,
au bout d'un certain temps, il fera tellement chaud que les canons à neige ne suffiront pas, il faudra recouvrir les pistes. Donc on fera du ski indoor à la montagne.
On va prendre un principe, tout ce qui est naturel, tout ce qui est naturel, oui, tout ce qui est artificiel, c'est contraire au projet environnemental.
Et là, exactement le même débat qu'on a eu tout à l'heure avec les navires de croisière.
Oui, totalement.
Exactement même débat. Sauf que là, le ski, excuse-moi, je termine juste, Rémi.
Oui.
Le ski, ça concerne qu'une partie de la population. Ça coûte une blinde.
Moins de 10%.
Oui, mais ça coûte une blinde. Donc, ça ne concerne que ceux qui peuvent se le payer. Et peut-être qu'on peut effectivement respecter une certaine naturalité, comme tu disais, Thierry, pour commencer à restreindre un peu les choses. Et bien sûr qu'il y a une économie qui va tomber le jour où on arrêtera le ski.
Les
chantiers de Saint-Nazaire, ils tomberont. Et c'est comme ça. Ils se remettent dans autre chose.
Oui, mais sauf que, ça c'est un bout de la lorgnette, les nantis qui iraient au sport d'hiver, sauf que tu viens de le dire, et tu as raison, il y a des régions entières qui ne vivent que des sports d'hiver, il y a des villages entiers, et le problème, c'est que là, ça se précipite, c'est aujourd'hui qu'il faut trouver des solutions pour la reconversion de ces stations de sport d'hiver. Il y a un certain nombre de communes qui commencent à le faire, mais on commence seulement à le faire, mais on le sait bien, c'est en train de se précipiter. Et il y en a qui ne sont pas prêts à y renoncer. C'était l'hiver dernier, il y a eu
l'hiver dernier, il y a eu tellement de neige
je ne sais plus le nom de la commune, ça me reviendra peut-être, mais qui avait, creusé un bassin artificiel dans une forêt pour tenter d'alimenter les canons à neige en eau, et ça fait des polémiques pas possibles, mais Le problème, c'est qu'encore une fois, dans un certain nombre de secteurs, c'est que le réchauffement climatique arrive beaucoup plus vite qu'on ne le pensait ou qu'on ne voulait, on voulait le voir. Et qu'il y a, il va y avoir des frais.
Mais évidemment. Et après, il y a aussi beaucoup de stations de ski qui ont fait des efforts pour s'adapter aussi au tourisme l'été. Et aujourd'hui,
ah c'est la réalité de cette planète. Il faut assumer. Il faut assumer à un moment donné. On a pété la planète, et bien on assume. On va pas faire du ski au moins de. Voilà.
Apolline, ce matin, nos policiers ont-ils la gâchette trop facile en l'espace de 24 heures? Deux personnes sont mortes sous les balles des policiers suite à des refus d'obtempérer. David Levaux, secrétaire général d'unité SGP Police en Bretagne, prend la défense au micro d'RMC de ses collègues. Écoutez.
La détente facile, surtout que là on avait affaire, je le dis bien, à des professionnels aguerris. Nous représentons l'ordre et la loi, on représente la République. Quand on fonce sur un policier, évidemment, la loi et les règles précisent qu'on peut faire usage de son arme pour défendre sa vie ou celle d'autrui. Voilà, c'est ce qu'a fait mon collègue. Et je tiens quand même à préciser qu'on a un collègue qui est extrêmement touché. Parce que, au-delà de ce que peuvent dire certaines personnes qu'on est des tueurs, vous savez, quand vous avez quelqu'un qui meurt dans une action de police, le policier, il est marqué à vie. Et psychologiquement, le policier, c'est pas une machine, c'est un homme, c'est un être humain. Il a une famille, une femme, et il est marqué. Voilà.
Voilà, dossier extrêmement complexe. Ça fait déjà une dizaine de personnes qui ont été tuées après des refus d'obtempérer. Emmanuel Dancourt, nos policiers ont-ils la gâchette trop facile?
Moi, je suis très troublée par les images que j'ai vues. Sur les images, si on prend juste les images qu'on nous a livrées dans les médias, dans les réseaux sociaux, on a l'impression d'assister à une exécution.
Tu parles de Nice, hein ?
Mais je parle de Nice, excuse-moi, tout à fait. Mais j'ai pas les images d'avant.
Et oui.
Donc je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Donc on n'est que sur la foi de ceux qui étaient là, ou peut-être que les images existent d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Et en même temps, je suis pas à la place de ce, et c'est jeune, hein, 23 ans. Hein. Je suis pas à la place de ce jeune mec, jeune policier, qui était certainement pour la première fois sur une opération comme ça. Je sais pas comment moi j'aurais réagi. Là, j'ai l'impression d'assister à une exécution, mais j'en sais rien.
Mais ça, lui, il est censé être formé pour dur. Ça.
Il est censé être formé pour ça, mais c'est pas beaucoup. Il a été formé, je crois, 6 mois, 4 mois.
C'est aussi un problème.
La formation des policiers. C'est pas la première fois qu'on en parle, ça fait des années qu'on en parle et c'est un énorme problème. Et on se retrouve avec une jeune fille de 22 ans qui est morte.
Ça, c'était à Rennes.
Ça fait beaucoup en 24 heures. Hein.
Je pense que chaque cas est particulier. Je pense qu'il faut attendre l'enquête judiciaire. Comme tu l'as dit, quand on regarde les images d'ailleurs, ça le policier peur, hein. dit que la voiture est redémarrée. Effectivement, on voit un esquisse de redémarrage.
Il a eu peur.
Il faut vraiment vérifier les angles. Moi, je crois que le temps Internet, le temps Twitter, le temps de la condamnation médiatique numérique n'est pas celui de la justice. Voilà. Laissons faire la justice. Encore une fois, je ne pense pas que les policiers ils prennent du plaisir à tirer sur les gens qui refusent d'obtempérer.
C'est pas le problème.
Faut juste, pardon.
C'est pas le problème.
Refus d'obtempérer toutes les 20 minutes.
Il y a quand même cette petite musique quand on voit aussi sur les réseaux sociaux, on voit aussi cette petite musique qui est de dire que la police tue et qu'elle a la gâchette facile. Le problème, il est posé comme ça dans les. Donc attendons l'enquête. Encore une fois, il faut laisser le temps à la justice de passer.
Je ne me prononce jamais sur les faits à chaud. Le débat n'est pas là.
On est d'accord.
Question de principe. Je défends la police depuis, moi qui n'aimais pas les flics comme tout le monde. Je défends la police depuis... Non, je les défends. Parce que vraiment, ils sont dans une situation où ils ont des situations héroïques face à des gens qui veulent leur mort et qui quelquefois sont extrêmement dangereux. Je comprends.
Je pense que tu peux pas dire ça. C'était un refus d'obtempérer. Alors attends, mais je ne minimise pas.
Je voulais juste terminer justement
parce que... Oui, mais ils veulent pas... La personne qui va réaccélérer, elle veut pas la mort du policier, je pense qu'elle veut fuir.
Non mais d'accord, le problème c'est qu'il y a une injonction et que dès que l'injonction n'est pas respectée, on rentre dans le stade 2 de la confrontation, est-ce qu'il y a danger ou pas? Je dois dire par contre, tout en étant défenseur de la police que je suis, défenseur invétéré là, parce que vraiment, il y aura toujours des bavures. Voilà. Et un policier reste quelqu'un qui est là pour réprimer et appliquer la loi et l'ordre, et il peut le faire de façon militaire avec à un moment donné l'usage de l'arme à feu. En revanche, la dignité de la République française, c'est de défendre sa police mieux qu'elle ne l'est par les autorités de la République. Voilà, assumer la responsabilité. En revanche, s'il y a faute du policier, la sanction doit être, j'allais dire,
exemplaire, impitoyable.
Parce qu'il est aussi le représentant de la loi. Et qu'il n'a pas le droit de se tromper. Voilà. Par contre, c'est un être humain, le syndicaliste l'a dit. Mais s'il a vraiment fauté sciemment et que sa responsabilité est avérée, il doit payer. Et si en plus ce jeune policier de 23 ans n'avait visiblement pas la formation suffisante et qu'il a eu peur, si, à mon avis il a eu peur, Mais si à chaque fois qu'ils ont peur, ils tirent, c'est un drame.
C'est embêtant, oui.
Et là, l'autorité qui lui a confié une arme ou cette mission à responsabilité doit payer aussi. Donc, pas de pitié pour l'excès, mais soutien à la police quand elle est dans son droit.
Dans un instant, la minute conso de Stéphane Pedrazzi. Et si vous êtes sportif, eh bien Stéphane va vous donner plein d'astuces pour faire des économies. À tout de suite.
RMC, Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h50, vous êtes dans Estelle Midi et c'est l'heure d'accueillir Stéphane Pedrazzi, la minute conso.
RMC, Estelle Midi.
La minute conso.
Et c'est une chronique un peu pour les sportifs aujourd'hui, Stéphane. Ouais. On va parler sport, justement, avec Decathlon qui lance un service de location d'articles de sport. Dites-nous si c'est un bon plan ou pas.
Alors déjà, c'est un système par abonnement que le groupe teste en ce moment en Belgique, mais qui devrait, si tout va bien, arriver en France dans les prochains mois. Le principe, c'est que vous payez chaque mois un abonnement pour pouvoir utiliser un ou des articles de sport et en changer aussi souvent que vous le souhaitez. Par exemple, une planche de surf en été, un vélo à l'automne, une paire de skis en hiver. Le prix de l'abonnement fonctionne par palier en fonction de la valeur des équipements que vous utilisez. 20 euros par mois pour un équipement d'une valeur maximale de 400 euros, 40 euros par mois pour des équipements jusqu'à 1000 euros, 80 euros par mois jusqu'à 2000 euros. Donc, bonne idée, oui, bon plan. En fait, ça va dépendre de ce que vous en faites.
Bah oui, parce que quand même, sur le long terme, ça coûte peut-être moins cher d'acheter ses propres équipements.
Alors, vous avez fait le calcul, 40 euros par mois pour prendre l'option intermédiaire. Sur un an, ça fait pratiquement 500 euros. C'est et donc, en deux ans, vous avez pratiquement payé l'intégralité de l'équipement. Mais malgré tout, ça peut avoir un intérêt dans certains cas. D'abord, si vous débutez un sport, le système d'abonnement vous évite d'acheter un équipement au complet au début. Ça vous permet de tester différents équipements pour voir lequel vous correspond le mieux.
Ça, c'est bien.
Et puis, d'arrêter les frais. Si jamais vous vous rendez compte que finalement, c'est pas le sport qui vous correspond, vous pouvez arrêter, vous rendez tout chez Decathlon et c'est terminé. Deuxième intérêt, c'est si vous aimez les sports saisonniers. Si vous faites du ski en hiver, du surf en été, du vélo au printemps, de la randonnée, vous pouvez changer régulièrement les équipements tout au long de l'année. Parce que si vous achetez individuellement tout ça, ça peut quand même représenter rapidement un gros budget.
Si tu as des enfants, la place, le stock.
C'est ça. Pour ceux qui habitent en ville, il faut quand même avoir l'espace pour stocker des paires de ski, une planche de surf, etc. Et puis, ça a un intérêt si vous avez des enfants. Vous connaissez les enfants, ils sont souvent indécis, ils grandissent, et donc il faut changer de taille de ski, de taille de vêtements, et donc ça permet aux enfants de passer du tennis au judo, du judo à l'équitation, etc.
Mais ça marche sur les vêtements aussi, genre les combis de ski ?
Alors ça, justement, ça va devoir être précisé. Et c'est ce qui va faire tout l'intérêt de cet abonnement ou pas. Parce que pour l'instant, pour être honnête, Estelle, on ne sait pas si ça va arriver en France. J'ai obtenu aucun chiffre. En fait, Decathlon est très très secret sur ce test. Je ne sais pas si c'est concluant ou pas, mais ça fait partie des questions qu'on se pose. Est-ce qu'on va effectivement pouvoir utiliser des skis, des vêtements ? C'est vrai que reprendre les vêtements dans lesquels d'autres sportifs ont transpiré, ça peut être un peu dégueulasse. Est-ce qu'on pourra interrompre l'abonnement ? Est-ce qu'on va pouvoir, par exemple, prendre l'abonnement 2 mois en été, puis arrêter, reprendre 3 mois en hiver, ou est-ce qu'il y aura un minimum d'abonnement? Et puis, est-ce qu'il y aura un système d'assurance? Parce que ce que dit Decathlon dans la version test pour la Belgique, c'est qu'il faut rendre l'équipement dans l'état où vous l'avez loué. Si vous cassez la paire de skis, si on vous la vole, je ne sais pas s'il y aura un système d'assurance, mais on peut imaginer, pour quelques euros de plus, histoire d'alourdir la facture, qu'il y ait un système d'assurance.
Tiens, Stéphane, c'est quoi les sports les plus pratiqués en France le matériel le plus demandé finalement?
Alors, on va poser la question, à votre avis?
Moi, je connais la réponse. Donc.
Le sport le plus pratiqué en France.
Le foot. Le vélo. Réfléchissez. Un sport qui ne demande pas beaucoup d'équipement. Qu'on peut faire du jogging.
La course
à pied.
40% des Français qui font du sport pratiquent de la course ou de la marche viennent ensuite la gym et les activités de forme. Donc, en gros, la salle de sport. Les sports aquatiques et nautiques, 20%. Le vélo, 18%. Les sports de raquettes, 11%. Ça, c'est pour les Français de plus de 15 ans. Maintenant, si on regarde les licenciés dans les clubs de sport, et là, ça inclut tout le monde, y compris les enfants. C'est facile, Estelle, t'as pas le droit de parler.
Foot.
Bravo. Voilà. Le foot, 2,1 millions de licenciés en France. Ensuite, le tennis, 986 000. L'équitation, le judo, le hand, handball, 500.
Handball.
Oh là là. Ah, on peut le prononcer à l'anglaise.
Non. Handball.
Et le basketball, c'est où?
Basketball. Oh là là, quel enfer.
Il y a tout à refaire.
Et l'éducation.
Et la pelote basque, elle arrive en quelle position?
Je ne sais pas. Mais je ne l'ai même pas vu dans le classement. Il y a déjà une quinzaine, une vingtaine.
Derrière le polo.
C'est pas mal.
C'est honorable.
C'est plutôt bien. Merci.
J'ai une question pour Perico. Je peux juste prendre quelques secondes. Est-ce qu'on est les plus gros sportifs européens?
Non.
Non, effectivement. Les premiers, ce sont les Suédois et les Finlandais. En France, 66% de la population de plus de 15 ans déclare effectuer régulièrement une activité sportive. Et 30% dit qu'ils n'aiment pas le sport.
Ça, c'est un vrai problème et un vrai fléau de société.
Les gens disent fléau et de santé.
Bah, si, c'est un fléau, parce que c'est un fléau pour la santé, la sédentarité, c'est un vrai problème.
J'aime pas le sport.
Confondons pas le sport et activité physique, hein, c'est tout ce que je voulais dire.
Je suis d'accord avec vous, Péricot.
C'est culturel.
C'est une remarque de mon sens. On parle de quoi demain, Stéphane?
On soit pas demain.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Bien sûr. Ah oui, demain, ce sera un coup de cœur pour un bistrot ambulant. Ça n'a rien à voir avec vous. Mais effectivement, c'est ce qui remplacera votre chronique demain. Merci en tout cas, Stéphane Pedrazzi. On se retrouve lundi, 13h50, pour la Minute Conso. Vous mangez de la viande, Stéphane ?
Oui.
Eh bien...
Je suis flexitarien.
Bientôt, peut-être que vous serez seul. Car sachez que...
Pareil, on va manger des sauterelles.
Non, mais attendez, plus d'un jeune sur 10 se dit végétarien aujourd'hui. Est-ce que l'avenir est au sans viande ? On en parle dans un instant, bien sûr, dans Estelle Midi. Et puis appelez-nous au 3216 si vous avez décidé d'arrêter de manger de la viande, justement. Si vos enfants sont végétariens et que pour vous, c'est un drame. Vous nous appelez, vous témoignez. 3216, à tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.